Hello tout le monde, je suis Edouard Bonamour et vous écoutez le podcast de Perds pas ma page, un podcast qui vous fait découvrir la bibliothèque idéale des artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Cette semaine, mon invité est Nicolas Lee, mannequin, artiste plasticien, chanteur, compositeur et musicien. Il a toutes ses cordes à son arc, Nicolas. Il vient de sortir un très bel EP intitulé Subliminal, un voyage presque cinématographique dans chaque chanson raconte une histoire avec une puissance visuelle rare. J'ai retrouvé Nicolas autour d'un café pour parler de quelques-unes de ses lectures favorites qu'il va partager avec vous maintenant. Avant de commencer, n'oubliez pas de noter le podcast et surtout, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner vos retours sur les épisodes ou sur des lectures que vous avez faites et que vous aimeriez partager. Vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram Perds pas ma page avec le lien en description de cet épisode. Perds pas ma page, épisode 27, c'est parti. Salut Nicolas.
Salut Edouard.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour Perds pas ma page, ça me fait très plaisir de te recevoir. Je vais juste te rappeler en deux mots le principe du podcast, je le fais à chaque fois. Tu m'as donné trois titres de livres qui t'ont particulièrement marqué et on va en parler pendant une petite demi-heure.
D'accord.
L'idée c'est pas de me faire une étude de texte, je veux pas que tu prépares des fiches ou que tu sois stressé, je veux juste savoir ce que tes livres t'ont évoqué et pourquoi ils t'ont marqué.
D'accord.
Parce que parfois ça fait un peu stresser mais... Les invités de
écoute, je t'avoue que j'y pense depuis hier soir parce que j'ai des livres fétiches, mais c'est plus des fétiches que des livres que je lis tout le temps en fait. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment des livres qui m'ont suivi. Le premier, c'est L'éloge de la fuite de Henri Laborie, qui m'avait marqué à l'adolescence parce que à l'adolescence, tu te poses plein de questions. Sur ta sexualité, sur ta mélancolie, des choses comme ça. Et parfois, tu ne trouves pas de réponse, en tout cas, où tu ne sais pas te poser les bonnes questions.
Ouais.
Et quand je suis tombé en premier lieu sur le film en fait, de Alain René, Mon oncle d'Amérique, qui est tiré de ce livre, j'ai eu une sorte d'épiphanie dans le sens où... Enfin, ça m'a vraiment donné envie de lire le livre pour essayer de comprendre ce point de vue d'un scientifique, en fait, sur des questions existentielles. En fait, c'est pour moi, j'ai l'impression, l'un des seuls livres de science existentielle.
Alors, voilà. Juste en deux mots, pour ceux qui nous écoutent, s'ils ne l'ont pas lu, est-ce que tu saurais m'expliquer?
Alors, le livre de Henri Laborie, c'est un ancien médecin de guerre qui était au Vietnam, qui a travaillé... sur des bateaux et qui, par empathie pour ses patients, a développé des molécules pour atténuer la douleur en fait. Et il a comme ça qu'il a inventé le Xanax. Donc voilà, Henri Laborie a inventé le Xanax, on part sur une bonne base. Et en fait, après ça, il a commencé à faire de la recherche en biologie pour pousser cet aspect de comment affronter les conflits dans la vie de manière sereine. En fait, c'est pas vraiment du développement personnel, mais presque, c'est plus de la vulgarisation scientifique.
Ouais.
Mais en tout cas, c'était une manière, en fait, pour lui d'aborder l'aspect l'aspect psychosomatique, en fait, dans quelle mesure les troubles mentaux, les situations souvent que tu n'arrives pas à affronter peuvent créer des problèmes physiques, quoi. Mmh. Et en fait, moi, avoir lu ça à l'adolescence, quand on se pose beaucoup de questions, tout d'un coup, ça remet les choses en place et ça te fait comprendre nous ne sommes que molécules, nous ne sommes que fluides, nous ne sommes que physiologie. Quand on est heureux, c'est simplement l'endorphine ou la sérotonine ou quoi que ce soit. Quand on est malheureux, effectivement, on en revient à la mélancolie, la bile noire, ce genre de choses. Donc ça touche vraiment à des sujets, moi, qui m'ont tout de suite accroché, quoi.
Et pour quelle raison, alors, du coup?
Parce que j'étais un adolescent en souffrance, quoi. Non, j'étais très solitaire et je cherchais des mentors, je pense, ou quelqu'un qui m'éclaire un petit peu sur la vie, avec un système de pensée différent des autres. Et du coup, ouais, ce livre, je suis souvent retourné vers ce livre, en fait. Parce qu'en plus, c'est pas un roman, tu peux le prendre vraiment dans tous les sens. T'as un passage sur l'amour, un passage sur la liberté. voilà, ça soulève des questions qui sont pour moi existentielles sous un angle biologique en fait.
Et aussi, ça parle l'éloge de la fuite, ouais, comme tu disais, du libre arbitre en fait, de notre place dans le groupe, ce qui est, je trouve, en ce moment, une question importante à se poser dans un entre-deux-tours d'élections présidentielles, le libre arbitre et comment on est par rapport aux autres et qui on est par rapport aux autres. C'est important de se poser.
On se rend compte. Un peu tard qu'on est au pied du mur comme ça, où, est-ce qu'on se révolte, est-ce qu'on reste sur place, ou est-ce qu'on fuit ces situations insolvables. Il y a trois solutions, c'est soit on lutte et jusqu'à défoncer des portes ouvertes ou quoi que ce soit, mais en tout cas on lutte, soit on est prostré, c'est-à-dire il appelle ça l'inhibition de l'action. Et c'est à ce moment-là qu'on se crée des ulcères à l'estomac, c'est quand on est en face de, voilà, d'un mur et qu'on est dans l'inaction, on n'agit plus. Voilà. Ouais. Et puis il y a la fuite qui peut être artificielle, la drogue, la fête, ou la fuite physique, quoi. On est en face de quelqu'un qui ne nous aime plus, alors on se casse dans un autre pays, voilà, ça peut aider. L'idée première, en fait, de la fuite, c'est plus la solution de la fuite comme un levier pour l'imagination. C'est la fuite artistique, en fait. Et moi, c'est cette fuite que je choisis, en tout cas, je pense, par nécessité.
C'est ce que j'allais te demander, justement.
C'est-à-dire que, voilà, ce qui se passe en France, c'est on est en face de quelque chose qui est très complexe et puis en même temps comme un cycle où l'inaction ne paye pas, la lutte ne paye pas, puisque Laborie dit très bien que même la révolution, on est obligé de recréer un groupe dans lequel on est soumis et dans lequel on perd de toute façon sa liberté.
On recrée toujours le même schéma en fait.
On recrée toujours le schéma de dominance, de dominer. Et moi, je choisis la lutte, la lutte par la fuite, on va dire, par la fuite de l'imaginaire.
Ouais.
Voilà. C'est pour ça que j'écris des chansons.
Et justement, c'est très bien, ça me fait une transition toute trouvée, parce qu'on va écouter un titre de ton EP. Je te propose qu'on écoute Subliminal, là, qui est sorti, qui est le premier titre que tu as sorti. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment il s'est créé, ce titre ?
Il s'est créé un peu tout seul, en fait. Je suis parti sur le concept de révolte aussi, d'un personnage qui décide de prendre d'assaut soit une banque, soit un lieu, un haut lieu du gouvernement, soit une salle de concert ou quoi que ce soit, mais en tout cas de faire un hold-up pour trouver le bonheur, quoi, pour demander une rançon, et la rançon, c'est le bonheur, quoi. C'est un putain de monde idéal. Donc c'est parti de ce concept assez simple, voilà, de hold-up pour un monde idéal. Voilà. Et là-dessus, c'est le texte est venu tout seul, et la musique est venue avec le texte. Et, voilà, c'est,
Toujours avec cette idée-là, c'est vrai que ta musique, je lisais ça aussi sur toi beaucoup, c'est ce qu'on dit, mais c'est toujours très cinématographique, quoi. Il y a toujours une histoire très forte derrière. Ouais. Tu racontes.
Ouais. Effectivement, ouais, là, je t'ai raconté une chanson comme si je racontais un film.
Ouais.
Et c'est le levier de l'imaginaire. C'est juste, c'est indispensable pour moi. Enfin, c'est moi, les chansons qui me restent et qui me font, qui m'obsèdent, c'est des chansons assez visuelles, quoi. Finalement, c'est des histoires de personnages qui évoluent avec des failles, avec compromis avec le mal, dans des situations difficiles. Et moi, je tourne autour d'eux, en fait. Je cherche des angles
pour raconter tout ça.
Pour raconter tout ça, et avec des métaphores, et pour raconter tout ça, et garder en haleine le... J'allais dire le spectateur.
Le spectateur.
Ouais.
Le spectateur de ta chanson. Et ben on écoute Subliminal.
Personne ne bouge et tout est dissolu. Dis-moi le temps qui passe sur cette balle qui traverse mon cœur, qui va vers le ciel. Y'a comme un déjà vu, comme un goût de métal juste au bord de mes lèvres. Une balle dans le chargeur, index sur le trigger. On joue à la roulette, je mise sur le 777. Une balle dans le chargeur, index sur le trigger. On joue à la roulette, sur le 777. C'est subliminal, ces images mentales. Dans le ciel, le soleil se couche, le soleil se couche et personne ne bouge. Moi je veux le Graal, un monde idéal et un happy end comme Hollywood, comme Hollywood. Sera plus douce. Personne ne bouge et tout est dissolu. Dis-moi le temps qui passe. Dans le coffre, tu caches tes prières. Moi, je veux bien descendre au caveau pourvu que résonnent les basses dans mes artères. Six pieds sous terre, c'est subliminal. Ces images mentales. Dans le ciel, le soleil se couche. Le soleil se couche, personne ne bouge. Moi je veux le Graal, un monde idéal et un happy end comme Hollywood, comme Hollywood. L'enfant sera plus doux.
On passe à un deuxième choix de livre. Alors tu m'as donné aussi choix de poème de Paul Celan.
Oui.
Ou Respirer l'ombre de Giuseppe Pennone.
Alors, on peut parler de Paul Celan. C'est un livre de chevet dans le sens où c'est un livre vers lequel je vivais quand j'ai plus d'inspiration, en fait. Que c'est vraiment une source intarissable d'images, d'idées. Et même si son travail ne part pas de quelque chose de très léger, quoi. C'est Paul Celan, c'est un orphelin de la Shoah. Ses deux parents ont été déportés, ils sont morts là-bas. Il a été très incompris pendant sa carrière.
Pourtant, on considère maintenant que c'est un des poètes les plus importants allemands. Enfin, ouais. Un des poètes allemands les plus importants de l'après-guerre.
Ouais. Sur le tard, ouais.
Ouais, sur le tard. Ouais.
Souvent comme ça. Mais parce qu'il y a une grande modernité, je pense, et que ça, c'est fait la différence. C'est que forcément, à l'aune de ce qu'on vit aujourd'hui, on ne vit pas chez les bisounours, toujours pas, quoi. C'est toujours de l'antisémitisme, toujours du fascisme, de l'extrême droite qui monte, et un manque considérable d'ouverture d'esprit, et dans ce sens sa poésie ne bouge pas, elle est immuable. Il a choisi une langue particulière qui est celle de l'incantation, quoi. Et c'est même une poésie qui trébuche, une poésie qui se répète, une poésie qui enfonce un clou, en fait, qui enfonce le clou de l'injustice. Et moi, ça m'inspire, quoi, parce que l'injustice, c'est un truc qui me rend hors de moi, quoi. Dans ce genre d'œuvre, plus tu touches au nerf sensible universel qui est l'injustice, et on y revient, la dominance, la domination et la soumission, plus en contraste, la moindre éclaircie devient incroyablement divine, en fait. Et c'est ça que je cherche, en fait, dans ce genre de littérature, de ce genre de poésie. C'est les profondeurs abyssales, et puis c'est en même temps l'envol, quoi.
Comment tu l'as découvert, toi, Celan, tu te souviens?
Celan, je l'ai découvert aux Beaux-Arts à Paris.
Okay.
On a fait un projet autour d'un poème à lui qui s'appelle Fugue de mort, en sculpture, voilà. Donc personnellement, j'ai fait beaucoup le tour de ce poème. Et j'y reviens toujours, en fait. Ça fait un petit moment et j'y reviens toujours parce que c'est difficile de décrire cette puissance qui est à la fois la puissance de l'urgence de survie et une telle sensibilité qui te fait voilà, qui te fait vibrer, quoi.
Et que peut-être seule la poésie est capable de donner, je trouve.
Ouais.
Tu ouais. vois, tu retrouves... Enfin, évidemment, il y a des romans aussi qui tiennent de ça, mais y a, la poésie est quelque chose de très instantané, tu vois, qui pose quelque chose comme
Tout
ça et qui...
Comme tu dis, c'est, ouais, c'est instantané. Il n'y a pas de règle, y a pas de règle de début, milieu, fin, de lieu ou de temporalité. C'est, on le prend aussi dans tous les sens. C'est lent, tu peux le lire à l'envers. Et j'aimerais connaître l'allemand pour le lire en allemand, mais je ne connais pas. Mais bon, c'est ce genre de poésie qui... ouais, qui touche vraiment le nerf de la guerre, quoi.
Ouais, littéralement.
Les fugues de mort, c'est incroyable parce que ça parle de musique. Une fugue en musique, c'est voilà, c'est une pièce musicale et c'est les Juifs qui jouaient du Bach ou du Mozart à l'entrée des fours. Ils détournent tout l'aspect glauque du camp de concentration pour se voilà, tourner autour de ce sentiment étrange et inquiétant, voilà, de d'une musique gay comme ça au milieu d'un camp de la mort,
tu vois,
avec Hitler qui dit allez jouez, jouez qu'on s'amuse, tu vois.
Ouais, ouais. On en revient à l'éloge de la fuite par l'art et.
Ouais.
Tu vois.
Exactement. Ouais, ouais. Et puis aussi la résilience par
ouais,
l'art.
Ouais. Ouais. Et tu me parlais des Beaux-Arts.
Ouais.
Parce que tu as fait les Beaux-Arts
ouais.
et ça me permet de faire la transition aussi avec ton dernier livre que tu que t'as
ouais.
choisi
ouais, ouais, ouais.
qui est donc Respirer l'ombre
ouais.
de Giuseppe Pennone hein, j'imagine on dit c'est ça
qui est oui, oui,
Pennone,
oui.
Pennone, je
sais. Pennone
Pennone
oui, 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 oui.
qui était est-ce que ça a été ton professeur parce que je sais qu'il enseigne à Paris mais est-ce que
il enseignait à Paris oui, oui quand j'étais aux Beaux-Arts ouais. quand je suis rentré il venait d'arriver. Je suis rentré dans cet atelier, j'ai tout de suite été attiré par l'ambiance en fait. La porte a été défoncée, et, on rentrait tous par la fenêtre. Il y avait du vin dans le frigo, avec de la bonne musique, tout ça. Je ne savais pas du tout qui était Pennone en fait. Et du coup, je me suis présenté, voilà, j'ai montré mon travail. Il me dit oh, ok, d'accord, je reviens dans une semaine, montre-moi et tout, machin. Okay. Et puis, bah, c'est comme ça que je suis rentré doucement dans son atelier et que j'ai découvert. Au fur et à mesure son travail quoi qui est bah, qui est juste génial quoi et notamment j'ai choisi ce livre parce que c'est un artiste visuel mais qui écrit beaucoup en fait sur son travail et il fait des dessins et puis il structure une pensée autour de ça mais poétiquement parlant c'est complètement valide en fait c'est tu peux le prendre indépendamment c'est
ouais,
magnifique
c'est ce que j'allais te demander est-ce qu'il faut voir l'œuvre pour comprendre l'écrit ou
alors,
pas
je pense que tu peux aborder les deux voilà les deux de manière indépendante c'est toujours bien effectivement de voir son travail et de lire ses textes mais une fois que tu as vu son travail en fait tu n'as pas besoin d'expliquer parce que ça a une qualité qui est hyper synthétique et père logique presque ça c'est d'une grande poésie vraiment enfin c'est c'était un fils d'agriculteur donc il a un lien très très pragmatique à la terre à la, aux saisons et à la nature et l'expérience aux Beaux-Arts ça a été vraiment et le connaître et aborder son travail à travers lui aussi et en travaillant avec lui et tout ça a été vraiment bah, ça a été une révélation par rapport à la nature et notre lien à la nature et l'humilité, l'humilité de l'artiste en fait.
Ouais.
Voilà.
Et est-ce
voilà.
que juste pour ceux peut-être qui connaissent pas, tu peux, t'aurais une description un peu d'une œuvre de Pennone qu'on se rende compte parce ouais. que et aussi de ce que raconte du coup Respirer l'ombre, enfin de
ouais.
la cohérence entre les deux.
Pennone, il y a une œuvre qui est assez qui met un peu tout le monde d'accord, c'est il travaille beaucoup sur les arbres et sur la structure et la croissance des arbres. Et une de ses œuvres sur laquelle il a beaucoup travaillé, beaucoup exposé, c'est une sorte de méthode qui s'est inventée en récoltant, en collectionnant des vieux arbres immenses et en creusant, en fait, suivant les anneaux, les nervures et les nœuds de l'arbre, il retrouve l'arbre originel, en fait. Il retrouve le bébé à l'intérieur de l'arbre.
Ok.
Et il aimait beaucoup parler des arbres en tant que structure la plus parfaite, dans le sens où un arbre, c'est une mémoire vivante. Un arbre, il a tout gardé, en fait, de son enfance et intact. Et son rôle à Pennon, c'est très humble. C'est juste de révéler cet arbre plus jeune.
Okay. Voilà.
Et c'est juste quelque chose, c'est presque un acte ouvrier, quoi. Et ça rejoint l'idée de son mouvement, l'Arte Povera, qui était quelque chose de très contre le pop art et contre Warhol, qui était vraiment quelque chose dans...
Un truc un peu plus flamboyant et...
Voilà, plus flamboyant, ouais. Plus pop, évidemment, et plus cher, et plus, toujours ouais. Plus. Ouais. Et là, on revient vers une humilité, en fait. Voilà, c'était les années 60, voilà, mai 68, la nature et tout. C'est super, mais je pense qu'on en a besoin aujourd'hui, vraiment.
Et dans Respirer l'ombre, il écrit autour de tout ça, du coup, c'est ça il...
Dans Respirer l'ombre, c'est des carnets, en fait. C'est des carnets de création. C'est le titre d'une œuvre qui est exposée à Beaubourg.
À Beaubourg, ouais.
Et c'est une installation qui est faite... C'est un immense cube fabriqué avec des feuilles de laurier, donc avec un parfum complètement enivrant. Et y a juste au milieu... presque souverain le moulage d'un poumon en feuilles d'or et en feuilles de laurier sculptées, donc c'est très minutieux et y a cette odeur enivrante et donc ça il appelle ça Respirer l'ombre et c'est très très beau, difficile à décrire, il faut le voir, ouais. C'est à Beaubourg, c'est très beau, c'est une collection permanente et tout, bah, j'y vais de temps en temps, voilà.
Tu continues toi de créer un peu
C'est difficile quand on est sur un album, parce que créer, il faut beaucoup de temps. Faut ouais. Beaucoup de temps.
Ouais.
C'est vraiment passer un mois sur une idée, et puis trouver le meilleur média, le meilleur médium, pour... voilà. Et donc... c'est toujours dans un coin de ma tête. Ouais, ouais, même mes chansons... m'inspire peut-être de manière un peu hyper narcissique comme ça, mais peut-être inspirer quelque chose à faire.
Ça nourrit autre chose, quoi.
Ouais, en installation ou en quelque chose d'immersif, puisque ce sont des histoires et qu'il y a 10 000 façons de raconter une histoire ou raconter un événement.
Et on va écouter un deuxième titre okay. De ton EP. Est-ce qu'il y en a un que t'aimerais bien qu'on écoute ou est-ce que... Parce que moi, j'avais Atalante en tête, mais...
Ça me va très bien.
Ça te va bien ?
Ouais.
Est-ce
ouais.
que je peux te redemander, du coup, comment elle s'est créée, cette chanson ?
Atalante, c'est très, très surréaliste comme chanson. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Je suis tombé amoureux de ce titre et de... me suis inventé cette expression, avoir un visage d'Atalante. J'étais inspiré par l'Atalante parce que c'était apparemment une des premières déesses féministes contre le mariage, qui était vraiment l'époque de l'Antiquité, qui était un symbole d'indépendance ouais, de la femme. Et j'ai écrit cette chanson chez une amie que j'aime beaucoup, qui m'est très chère. Je pense qu'elle m'a injecté quelque chose de son histoire que j'ai absorbé. Et je me souviens très bien, c'était dans son salon, elle a un jardin avec un énorme saule magnifique, et j'ai écrit et composé cette chanson en face d'un arbre.
Comme quoi, ça, on retourne, tout est lié, c'est parfait,
tout est lié, ouais.
On écoute Atalante.
Emmêlée dans les fils du temps, je vis des amours dilettantes, mais ton visage d'Atalante, comment tes yeux sont bleus comme l'océan. On joue à des jeux indécents, projetant nos ombres sur les écrans de fumée. En équilibre sur le divan, je prendrai mon mal en patience pour faire de ce désir une science. leurs masques aux apparences. Moi je veux me perdre dans les méandres de ton visage, ta talente, de ton corps que le ciel quadrille. Toutes ces blessures sans cicatrices. Dans la paume de ma main, la morsure et le doux venin des piqûres. Sous mes pieds, le ciel qui se glisse. Comment oublier? Tes yeux sont bleus comme mon futur et nos amours incandescents. Nos descentes aux enfers, c'était à l'envers.
Deux dernières choses, un petit questionnaire pivot. Tu sais, Bernard Pivot faisait un questionnaire de Proust dans son émission, je sais pas si tu te souviens.
Putain, j'aurais dû me préparer.
Ah non, justement, sinon ça serait pas drôle. Un endroit où tu aimerais fuir, justement.
Ah, où j'aimerais fuir la plage.
Classique mais efficace.
Ouais, sincère.
Si tu étais une œuvre d'art.
Je serais une installation à dimension variable.
Ok. Quel est le plus bel endroit que tu as vu dans ta vie?
Je pense que c'est la baie d'Along au Vietnam.
Ouais, c'est très très beau. Ouais. Si tu étais un jour dans la semaine?
Je serais pas le jour du Seigneur, je serais samedi.
Pour quelle raison?
Parce que samedi c'est le week-end.
Ton insulte favorite?
Connard.
Classique mais efficace aussi. Ouais. Si tu étais un bruit?
Je serais... Ouais, j'ai que des lieux communs qui me viennent. Je serais la pluie, je serais... Je serais la pluie.
C'est beau le bruit de la pluie.
Ah, je dirais même le léger coup de foudre.
Ok. Qui annonce, loin là-bas.
Ouais, ouais. Qui annonce la grosse tempête.
Le métier que tu aurais adoré faire?
J'aurais adoré être chirurgien esthétique. Hein.
Ah ouais, ouais. Pourquoi?
On gagne beaucoup d'argent.
Et ta qualité préférée chez une personne? Pas chez toi, chez une personne.
Chez une personne, la gentillesse.
La gentillesse, nickel. Et pour finir, j'ai pour habitude d'offrir un livre à mon invité. Wow. Et j'ai pris un risque parce que c'est quand même un classique. Est-ce que tu l'as lu, Kafka sur le rivage?
Pas du tout.
Tu l'as pas lu, c'est vrai?
Non, non.
Ah, génial. Donc Kafka sur le rivage de Haruki Murakami.
Merci beaucoup.
Qui est un gros pavé.
C'est peut-être pour ça que je l'ai pas lu.
Qui est une histoire.
Je ferai l'effort.
Un peu surréaliste où il y a des chats, où il y a tout ça est très un peu rêvé, un peu. Il y a des forêts un peu mystiques, des personnages hauts en couleur, etc. C'est vraiment, c'est un conte presque philosophique.
D'accord.
D'accord,
c'est un conte japonais.
Ouais, ouais, exactement. Et
magnifique.
C'est vraiment très beau. Kafka sur le rivage. Donc, j'espère que ça te plaira.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Nicolas. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet échange vous a plu et que ça vous a donné de superbes idées de lecture. Je vous rappelle que le nouvel EP de Nicolas Lee est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et qu'il s'appelle Subliminal. Perds pas ma page est disponible tous les mardis sur toutes les plateformes, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode et découvrir plein de nouveaux artistes et de nouvelles lectures. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité et d'ici là, très bonne lecture.